With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, dans Kif Taras, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et tout ça sans complexe. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous enregistrons depuis le palais de Tokyo, à Paris.
Alors c'est un épisode de Kif Taras hors les murs que vous écoutez. On se trouve donc au palais de Tokyo, à Paris, dans le 16e arrondissement, au cœur de l'exposition capsule. Jusqu'ici, tout va bien. De l'école de cinéma Courtrage-Mé de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, à l'occasion des 25 ans du film La haine de Mathieu Kassovitz. Le podcast Kif Taras fait partie aujourd'hui d'un workshop d'art visuel imaginé par Joyce Kouo-Moukouri, artiste en formation à l'école Courtrage-Mé. Alors Joyce Kouo-Moukouri a choisi de mettre en image à sa manière le regard de trois personnages du film de La haine, Hubert, Saïd et Darty, et qui sont interprétés par Hubert Koundé, Saïd Tagmaoui et Édouard Montout. Elle les interprète à sa manière, à son tour, à la lumière de rues dont certaines bordent le palais de Tokyo. Donc c'est deux rues parmi 233 qui sont recensées à Paris et qui rendent hommage à des hommes d'État ou des militaires qui ont participé activement ou commandité des massacres de population pendant la période des colonisations. Il s'agit de l'avenue Léopold II et un peu plus loin la rue Colbert. Donc vous l'avez deviné, la mémoire collective et la décolonisation des espaces publics, c'est le thème de notre Kif Taras du jour.
Et pour nous accompagner aujourd'hui dans cette réflexion, nous avons le grand plaisir de recevoir Zaka Toto, écrivain et fondateur de la revue Zist, qui est tout spécialement venu de Martinique pour nous faire profiter de son expertise. Merci beaucoup Zaka Toto d'être parmi nous, bonjour.
Salut
Zaka.
Merci beaucoup, merci
Rokaya, merci Grâce. Je sépare bien le nom et le prénom pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas un seul nom, c'est Zaka Toto. Ouais.
Voilà. Et je précise que c'est son vrai nom pour ceux qui se posent la question, parce que non, j'ai dit ça parce que Zaka a déjà s'est exprimé sur Twitter à ce sujet il n'y a pas longtemps et j'ai lu, j'ai trouvé ça très très... Bah, en fait, on pourrait en parler en Kif Taras, si tu veux.
Hein. Oui, si vous voulez, pourquoi pas. Merci de m'avoir invité.
Merci, c'est un plaisir.
Alors dans Kif Taras, Zaka, on a un rituel qui s'est... c'est de se situer sur le plan racial, parce qu'on va sauter à pieds joints ensemble dans les questions raciales. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique et Rokaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Zaka, tu te situes sur le plan racial et si oui, comment ?
Alors moi, je me décris comme noir. Comment je suis perçu, par contre, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas mal d'héritages raciaux très différents. J'ai du sang arawak, du sang noir.
Les arawak, c'est un groupe ethnique.
C'est les Amérindiens, c'était les premiers habitants de l'île de
Martinique. Avant l'invasion française.
J'ai du sang blanc et donc ça fait que selon les situations, selon mon bronzage, selon ma coupe de cheveux, aujourd'hui vous pouvez voir que voilà, je suis perçu peut-être différemment selon les situations. Voilà.
Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réaliser que tu étais noire, ou est-ce que vivant en Martinique pendant 20 ans, est-ce que c'est quelque chose qui était évident pour toi ?
Pour moi, c'est assez évident. Enfin, je viens d'une famille de gens qui sont très engagés politiquement. Et donc mon éducation au niveau de qui je suis et de quelle est mon identité était très claire dès le début, en fait. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont tu te perçois ou dont tu appréhends ton identité quand tu es en Martinique et une manière différente quand tu es dans l'Hexagone?
C'est-à-dire ?
Est-ce que tu es noir de la même manière en Martinique et dans l'Hexagone ? Puisque
en
fait, en Martinique, c'est
une
majorité de personnes noires et en France, les gens sont minoritairement noirs.
Mais c'est sûr qu'on est plus à l'aise et naturel en Martinique. Après, moi, j'essaie de ne pas switcher, enfin, de ne pas changer de comportement. Je suis comme je suis partout où je vais. Voilà, j'essaie un peu d'affirmer qui je suis.
Alors, pour commencer, je voudrais faire un point terminologique avec toi, parce que c'est vrai que les Outre-mer sont assez absents ou parfois font l'objet de clichés dans l'imaginaire collectif français et sont désignés de manière assez diverse. Et quand on a échangé lorsque tu es arrivé à Paris, tu nous as dit que tu étais venu en France. Or, la Martinique, c'est aussi la France. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es parti de France pour venir en France ou...
Alors clairement, politiquement, enfin, en termes de statut, la Martinique c'est la France. Après, je considère tout de même que c'est une entité, une culture, une nation qui est séparée. Il y a tout de même 8000 km d'océan qui nous séparent. Donc on peut à la fois reconnaître le fait qu'il y ait similarité politique, enfin qu'on fasse toujours partie de la France tout simplement, tout en remarquant ou en faisant noter qu'il y a tout un chemin finalement pour venir dans l'Hexagone.
Oui, parce que c'est courant en fait que les ultramarins, enfin des personnes qui viennent des populations, des territoires d'outre-mer, disent qu'ils vont en France quand ils quittent ces territoires-là. Et c'est vrai que nous, on peut pas se enfin moi, je me permettrais pas de le faire parce que ça me donnerait l'impression de nier le caractère français de ces territoires. Donc voilà, c'est pour ça que je me posais la question.
C'est une vieille question. Quasiment toutes les générations, je veux parler pour les Antillais, je veux pas parler pour tous les ultramarins. Très souvent, on doit venir faire nos études ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot chez nous, on doit venir travailler ici, souvent quand on est jeune, quand on a 18 ans, quand on a 20 ans, parfois plus jeune. Et ce qui se passe, c'est que souvent, précisément par rapport à notre éducation, qui est l'éducation nationale, je précise pour ceux qui ne le savent pas, ben on nous apprend qu'on est français, on nous apprend qu'on est des citoyens égaux, etc., etc., liberté, fraternité, égalité. Et souvent, ce qui se passe quand on vient ici, pour une raison ou pour une autre, pour s'installer, peut-être même de manière momentanée, on découvre en fait qu'on vient de quelque chose de différent. C'est assez spécial. Et c'est quelque chose qui est raconté par Césaire, qui est raconté par Fanon, qui est raconté par successivement toutes les générations et que vivent même maintenant les étudiants qui viennent ici, par exemple.
Moi, j'ai une question parce que je connais très mal les Outre-mer, comme peut-être beaucoup de Français et aussi des hommes d'État. Alors pour moi, les Outre-mer, c'était les petites cases carrées en bas de la carte de France, à côté de la Corse. Et il y avait 12 territoires qui, j'avais l'impression, étaient presque à côté. C'est-à-dire que pour moi, Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien Wallis et Futuna, c'était à côté de la Guyane.
De la Réunion.
Et c'était peut-être toutes des îles, hein, comme certains hommes d'État ont pu le dire à des micros de médias. Et est-ce que déjà, c'est raciste de dire la métropole quand on fait référence à... au territoire d'outre-mer, est-ce que, parce que pour moi, métropole, ça voulait aussi dire une grande ville, la capitale d'une région, la capitale d'un pays. Et depuis peu, je ne dis pas métropole quand je parle à des personnes qui sont issues des outre-mer, parce que on m'a dit que c'était raciste. Qu'est-ce que t'en penses, Daka ?
Le terme métropole, en fait, se définit donc dans la relation, pas pour la question de ville, pas pour la question d'urbanité, mais pour la relation entre la France et ses départements d'outre-mer. Métropole renvoie à colonie. Donc c'était le terme qui était utilisé à cette époque-là. Et nous, on préférait que... Même si peut-être ça revêt toujours une réalité hein, politique hein, de relations entre les territoires, on préfère utiliser Hexagone, France, etc., etc. L'autre bois aussi, on dit en créole, de l'autre côté.
Ah. Oui, parce que c'est vrai que moi, je n'utilise plus métropole depuis longtemps, parce que du coup, c'est vrai que ça renvoie au statut colonial. Mais en même temps, on peut aussi discuter. C'est-à-dire que ça peut être aussi une déclaration politique de dire que la France, c'est une métropole et que, en fait, les autres départements, enfin, les anciennes colonies qui ont été départementalisées sont toujours sous statut colonial. Mais c'est vrai que c'est ça. En tout cas, il faut le faire en réfléchissant à la portée du mot, quoi.
Et toi, je t'ai entendu dire, Zaka, les métros, quand tu parles des gens qui viennent d'Hexagone.
Grillé.
Oui, ça veut dire les métropolitains, voilà. Abrégés, quoi.
Tu présentes aussi dans un de tes articles Martinique comme une ville façonnée par le fait colonial. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
Alors, donc c'est un article que j'avais écrit qui s'appelle « L'Ville cannibale », qui essaie de présenter un peu l'histoire de comment les villes se sont façonnées. On est dans tout un questionnement, notamment depuis les événements de Charlottesville aux États-Unis, sur la symbolique publique. Parce que forcément, il faut que ça arrive d'abord aux États-Unis pour que l'Occident commence à prendre conscience de certaines problématiques. celle de la symbolique publique, celle de l'héritage colonial dans cette symbolique publique. Et moi, je trouvais ça super intéressant en fait, de travailler en relation, finalement, entre les États-Unis, qui sont les Amériques, qui sont un espace assez similaire au nôtre, enfin, en certains points, héritage de l'esclavage, héritage de la colonie, et la France, finalement, qui est un peu notre métropole ou notre ancienne métropole. Et de voir, finalement, comment s'articulait cette question de la symbolique publique, historiquement, elle n'est pas finie aux États-Unis, elle n'a même pas encore vraiment commencé à poser des questions en France, et de voir qu'est-ce qui se passait en Martinique, en fait. Et ce qui est intéressant, donc c'est un travail qui a commencé il y a quelques années avec une historienne qui s'appelle Valériane Aimant-Mariette, qui est une jeune historienne martiniquaise, qui fait des visites de Fort-de-France où elle explique en fait les lieux. Et en fait, on s'est retrouvé devant une porte, qui est une porte qui célèbre les 300 ans de la colonisation de la Martinique par la France, donc 735-1935.
C'est la porte du tricentenaire.
Ouais. Et bizarrement, personne ne se rappelait que c'était la porte du tricentenaire. C'était devenu complètement autre chose. Et donc, en fait, en retraçant un peu cette histoire, on découvre qu'à Fort-de-France, et aussi probablement dans d'autres communes et villes de Martinique, il y a eu une conquête politique. Et que cette conquête politique s'est traduite par un travail de renommée, de nouvelles statuaires, de nouvelles symboliques qui ont été inscrites dans les lieux. Donc c'est ce que j'appelle l'envie cannibale, c'est-à-dire que quelque part, on a mangé tous ces symboles coloniaux pour en faire autre chose. On les a renommés, on les a tagués, on les a découpés, enfin voilà.
Alors on oublie souvent que la France est le seul pays au monde qui soit présent sur quasiment tous les continents, du fait de ses départements. C'est le deuxième domaine maritime au monde, du coup, malgré sa taille toute petite. Hein, la France, c'est moins de 1% de la population mondiale. Tu parles d'ailleurs dans tes textes d'une Martinique caribéenne, américaine, française. Comment se traduit l'appartenance à ces trois espaces ?
Il tient à notre géographie, il tient à notre histoire, à notre culture. C'est un peu une sorte de... C'est plusieurs couches de sédimentation, quelque part. C'est quelque chose de très organique aussi, puisqu'elles se mélangent. Il est assez difficile de déterminer qu'est-ce qui a la priorité dans notre situation. Dans le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, on est relativement coupé de la Caraïbe, et pourtant on est une île caribéenne, c'est-à-dire que dans notre culture, dans les musiques que l'on écoute, les musiques que l'on joue, dans les mouvements de population finalement entre les îles, et entre les îles et les États-Unis, il y a énormément d'échanges. Donc il y a à la fois finalement une appartenance, il y a des appartenances multiples, il y a des appartenances qui sont hiérarchiques, et qui sont parfois assez difficiles à déterminer et à hiérarchiser finalement.
Et quand tu dis vous êtes coupé des autres îles de la Caraïbe, politiquement.
Politiquement, parce que
vous n'avez pas de lien d'échange direct, quoi, c'est ça ?
Par exemple, on fait partie de l'Union européenne.
Oui.
Donc par exemple, quand un ressortissant caribéen veut venir en Martinique, c'est très difficile pour lui d'obtenir un visa parce que c'est vu comme une immigration non voulue, puisque ce sont des territoires caribéens, noirs, etc. Ou de pays africains, par exemple. C'est la croix et la bannière pour faire venir des gens en Martinique, obtenir des visas, rester. Et même fondamentalement pour venir travailler, intervenir pour quelque chose de scientifique, etc. etc. Et c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours.
Alors, on va revenir un petit peu sur ce dont il était question, ce que tu as annoncé grâce en introduction. Et revenir un peu sur ces figures qui sont encore célébrées dans les rues françaises ou au niveau des personnages qui ont été glorifiés sous forme de statues. Donc les méfaits du maréchal Bugeaud qui a mené l'atroce conquête de l'Algérie en 1830, du ministre des Finances Colbert ou du roi des Belges Léopold II, ils font écho à la conversation que nous avons eue récemment en France. Le déboulonnage et la destruction de statues en Martinique cette année, le 22 mai, le jour de la commémoration locale de l'abolition de l'esclavage, et les 10 et 26 juillet, donc cet été, a suscité beaucoup de débats, un petit peu enragés, y compris dans l'Hexagone. Il s'agit de statues à l'effigie de Victor Schœlcher, connu comme le héros de l'abolition de l'esclavage. En tout cas, elle est présentée comme ça, dans le contexte français national. D'Ernest Desproges, qui était député de la Martinique. De Joséphine de Beauharnais, l'impératrice épouse de Napoléon. Ou encore de Balin d'Esnambuc, qui est fondateur de la colonie martiniquaise. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé et pourquoi ces figures... Et plus récemment, il y a le général de Gaulle qui a été aussi des statues qui ont été vandalisées. Je ne suis pas très fan de ce terme-là, mais voilà, qui ont été en tout cas attaquées... Même si, je ne suis pas sûr qu'attaquer une statue soit vraiment...
Alors, c'est assez complexe. Ce qui s'est passé cette année est super intéressant parce qu'il y a eu un long mouvement à partir des années 70 et 80 pour justement un peu accélérer ce travail de renommer, déboulonner, déplacer les statues, les symboles coloniaux dans les îles. Et pour beaucoup de cette génération-là, beaucoup de gens qui étaient des activistes, des militants, des syndicalistes, des hommes politiques, ce travail-là était fait. Notamment, enfin, en Martinique, il y avait un endroit assez spécial qui était donc la statue de Joséphine de Beauharnais, qui à la base était vraiment marquée comme symbole vraiment de domination coloniale. Alors Joséphine de Beauharnais, qui était la femme de Napoléon, impératrice des Français, qui était une biquée de Martinique, donc grande propriétaire d'esclaves. Pendant le Second Empire, Napoléon III, donc c'était sa tatie. Et tout simplement, il l'a fait ériger sur la place centrale de Fort-de-France, une superbe statue en marbre, où il y a une énorme fête, etc., etc., pour célébrer finalement cette espèce d'union éternelle entre la France et les Antilles, par ce mariage finalement entre les élites françaises blanches et les élites martiniquaises blanches. Quel que soit finalement le changement de régime, c'est-à-dire que la Troisième République est venue après, ils ne se sont pas dit on va enlever la statue, tu vois, il n'y a pas du tout eu cette espèce de séparation finalement entre les régimes étatiques français.
Une statue pas très républicaine donc.
Elle n'était pas très républicaine, pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années les années 60. Donc Aimé Césaire, qui était devenu maire de la ville de Fort-de-France, hein, puisque Fort-de-France avant était beaucoup gouverné par les élites de l'argent, les libres de couleur, ce qu'on appelle les mulâtres en Martinique, qui étaient souvent assimilationnistes dans leur relation avec la France, voulaient plus de France, par les béquets, de manière parfois directe ou indirecte, par le pouvoir de l'argent et de l'influence. Mais finalement, ce sont les pauvres qui y a eu un énorme exode rural en Martinique vers Fort-de-France, et c'est ces pauvres ces populations souvent noires d'origine indienne, qui ont élu Aimé Césaire en 45, donc après la Seconde Guerre mondiale, comme maire de Fort-de-France. Et lui, immédiatement, va tout renommer. Il va mettre
Césaire
va tout renommer dans Fort-de-France. Il va mettre des noms de révolutionnaires dans les rues, même des révolutionnaires français, par exemple, dont Chachin, on va en reparler. mais aussi de révolutionnaires caribéens, de Gandhi, enfin Maurice Bishop. Enfin, la liste elle est gigantesque. Ça allait jusque dans les quartiers populaires. Il a vraiment renommé la ville, le mec, avec une vraie vision, histoire. Enfin, tel siècle par quartier, tel continent par quartier, etc., etc. Il y a un boulevard du Vietnam héroïque en Martinique, par exemple.
Ça, c'est classe.
Wow.
Ouais. Il y a une rue Ho Chi Minh. Enfin, il y a pas mal de monuments.
C'est intéressant parce que généralement la guerre d'Indochine est perçue comme une défaite.
Oui, mais pas en Martinique.
C'est ça. Oui, parce que c'est une révolution. Enfin, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est rare qu'elle soit présentée comme la victoire des droits humains.
C'est ça.
Et c'est aussi intéressant de voir que la volonté politique de renommer des rues de ville, en fait, c'est pas très difficile. Il faut que quelqu'un le veuille. Enfin, parce que nous, en fait, on en parle depuis très longtemps de renommer des villes et renommer l'espace public en hommage à la nation et le récit national pour tout le monde. Et on voit bien qu'on nous dit non, c'est trop difficile, tu comprends, il faut le passer en conseil, je sais pas quoi. Et donc là, en fait, ça a été fait pas d'un claquement de doigts, mais j'ai l'impression que c'était assez simple.
Ça n'a pas été simple. Je pense que ça a pris pour lui, parce que c'est quand même dans un contexte de décolonisation, donc qui était quand même très sensible, et où lui-même était un peu persona non grata de la République, oui et non. Je pense qu'il faut. Pour lui, il a fallu être lui pour pouvoir le faire. Et il l'a fait souvent, en fait, sans le dire vraiment.
D'accord.
C'est d'ailleurs une des problématiques mais qui nous touche aujourd'hui en Martinique. Et ce mouvement-là, c'est par rapport à la statue de Joséphine, lui, il l'a mis sur le côté. Il l'a enlevé du centre, il a refait complètement la savane, et puis il l'a mis sur le côté, il a dit bon.
Oui, la savane, c'est le jardin.
Donc la savane, c'est les grandes places centrales qu'on a souvent.
Est-ce qu'on en est aux définitions ? Est-ce que tu peux dire les béquets ? Parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Ouais.
Alors les béquets, c'est les premiers colons de la Martinique. Ce sont ceux qui sont arrivés avec les premières compagnies françaises, avec les premiers bateaux français, et qui ont été les grands esclavagistes, en tout cas des petites Antilles. Donc en Martinique et en Guadeloupe.
Ce sont leurs héritiers aujourd'hui qui sont béquets.
Et qui ont maintenu jusqu'à aujourd'hui relativement une certaine pureté de race.
Qui la
revendique pour certains, même si de moins en moins, il faut le dire, mais qui maintiennent finalement aussi un vrai pouvoir économique, un vrai pouvoir sur les terres, même si politiquement, leur pouvoir a été battu en brèche.
Juste pour qu'on soit clair par rapport à la question de la pureté raciale, c'est vraiment une forme d'endogamie, en fait, pour se transmettre le... Enfin, parce que je sais que moi, quand je dis qu'il y a des gens qui les revendiquent, je me souviens de cet homme Becquet qui avait dit on fait tout pour garder la pureté de la race, et je crois qu'il avait été attaqué à l'époque, il y a à peu près 10 ou 15 ans.
Donc, c'était en 2009,
ouais. Ouais, une dizaine d'années, ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été organisé.
Qui était organisé parce qu'en fait, il y avait à la fois... c'était assez similaire à ce qui se passait en termes de ségrégation dans le sud, en Afrique du Sud. Il fallait à la fois garder les terres. Donc, il se passait les terres. Il fallait absolument que les terres restent dans la famille. Et il fallait aussi garder, finalement, donc éviter de se marier à n'importe qui et éviter absolument de mélanger les races.
Ouais, donc n'importe qui, c'était les gens qui n'étaient pas blancs, quoi.
Voilà.
En gros.
Voilà.
Donc excuse-moi, je t'ai interrompu sur ta lancée. Donc on doit parler des autres personnes que j'ai évoquées dont les statues ont été attaquées.
Et donc pour la statue de Joséphine, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que dans les années 90, il y a eu les derniers grands mouvements indépendantistes aux Antilles, avec énormément d'attentats à la bombe en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Paris, Bureau d'Air France, Palais de la Porte Dorée. Ils ont plastiqué un peu tout ça. Ils n'ont pas réussi. Beaucoup d'entre eux ont fini en prison. Et donc le mouvement a un peu fait pchit. Mais leur dernier geste, ça avait été de décapiter la statue de Joséphine et de renverser du sang dessus. C'était comme une symbolique pour dire que cette période était finie.
Donc ça, c'était au début des années 90.
Début des années 90, 91. Et donc, pour, je pense, cette génération d'activistes, de militants, voire de militants plus que militants, pour eux, ce travail de déstructuration, de décolonisation des symboles publics était fait. Le problème, c'est que beaucoup de ces choses-là n'ont jamais été expliquées, en fait.
D'accord.
Et comme l'éducation nationale, ce qu'on apprend à l'école ne nous concerne pas véritablement, ou en tout cas, il n'y a pas énormément d'adaptation.
C'est-à-dire que vous apprenez l'histoire de l'Europe, enfin de la France européenne,
voilà.
Mais pas l'histoire des territoires dans lesquels vous vivez.
Pas assez. Ouais. Et pas assez de l'histoire contemporaine,
oui.
Notamment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a encore une sorte de reprise de conscience de nouvelles générations qui se sont dit, mais en fait, on a toujours des choses, tu vois. On a par exemple des rues Blénac à Fort-de-France. Mm-hmm. Blénac, qui est le rédacteur du Code Noir, mais c'est Colbert qui a mis son nom dessus, en fait.
Il y a déjà de l'appropriation à cette époque.
Ah ouais. De l'appropriation entre nobles français, ouais. Je sais pas si on peut toujours dire nègre à la radio. Et donc il y avait la statue de Joséphine, il y a la statue de Belin d'Enambuc, qui est donc le fondateur de la colonie. Blénac est le fondateur de Fort-de-France. Et puis, il y a eu des choses un peu bizarres. Alors, dans le cas de Desproges, par exemple, Desproges était un des premiers élus de couleur. Il y a eu un conseil général de couleur en Martinique en 1880. C'est une période qui est assez similaire, finalement, à la période de la reconstruction aux États-Unis. Ta-Nehisi Coates, il avait écrit un livre, « We were 8 years in power ». On était 8 ans au pouvoir, nous étions 8 ans au pouvoir. Ces 8 ans au pouvoir, c'est à la fois l'année Obama, enfin les 8 ans d'Obama, mais c'est aussi les 8 ans de cette période après la guerre de sécession où les Noirs ont pu avoir leurs propres élus. Et on a eu un moment comme ça aussi en Martinique après l'abolition de l'esclavage. Et en fait, Desproges, pour le coup, est une figure plutôt très positive. C'est quelqu'un qui a, avant les lois Ferry en France, mis en place un programme d'éducation, des écoles publiques, laïques et séculaires, pour permettre justement aux populations d'anciennes esclavisées de s'éduquer et donc de s'émanciper par l'éducation. C'était quelqu'un qui était farouchement anti-Becquet. On n'a pas trop compris. Et puis, il y a la question de Schœlcher. Et Schœlcher, historiquement, qui est une figure complexe, parce qu'en fait, plutôt dans sa vie, c'était assez clair quand même, c'est quelqu'un qui est devenu abolitionniste à partir du moment où il est allé aux Antilles. Clairement, il a été très clair dessus, il a été constant dessus quasiment pendant toute sa vie, il faut le dire quand même. C'est même quelqu'un qui envisageait dans certains de ses textes l'indépendance des îles de la Caraïbe en imaginant une fédération, enfin, il a écrit un super beau texte dessus, et qui était un affront fondamental en fait au Becquet. Parce que Schœlcher, c'est celui qui leur a enlevé finalement leur pouvoir économique, qui leur a enlevé une importance particulière dans l'Empire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ces premiers élus noirs au 19e siècle, ce qu'ils font, ils mettent des statues de Schœlcher où ils mettent des rues Schœlcher dans chaque commune pour symboliser finalement qu'on n'est plus du tout à l'époque de l'esclavage. Et Schœlcher même, dans son rapport avec la République française, c'est complexe. Il est interdit, par exemple, de célébrer Schœlcher en Martinique jusque dans les années 70 par le préfet. Pourquoi ? Parce que comme il y a cette alliance finalement entre la France et les Becquets, il ne faut pas vexer les Becquets. Et ce qui se passe après, dans les années 80, c'est que tout simplement, la République décide de faire ce grand mythe de la République abolitionniste et d'utiliser Schœlcher finalement comme ce héros universel qui aurait libéré les Noirs.
Moi, ce que j'ai entendu aussi de la part de personnes martiniquaises sur Schœlcher, c'est que déjà la statue était un peu condescendante, dans le sens où on le voit prendre un enfant par la main et le guider vers la liberté, et que Schœlcher était ambigu parce qu'il était quand même favorable à la colonisation. Et aussi parce que il a aussi participé au fait que les propriétaires de personnes esclavagisées soient rétribués. D'accord. Donc c'est ce que j'avais entendu dire en fait, qu'il avait participé à ça. Donc il était opposé à ça.
Au contraire, Schœlcher a fait rater son amendement où il voulait justement. Donc non seulement il était contre l'indemnisation des débéqués, mais en plus il était pour l'indemnisation des anciens esclaves.
D'accord.
Et ça il n'a pas réussi à le faire passer.
D'accord.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depris, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Bon, en tout cas, la décapitation de statues, le déboulonnage de statues, c'est quelque chose qui fait partie d'une réflexion qui est en cours depuis assez longtemps, le fait de repenser la ville coloniale, de ce que tu nous dis, Zaka, en Martinique en particulier. Et c'est vrai que ça résonne particulièrement en France et dans le monde depuis la mort de George Floyd, parce qu'il y a eu une concentration de l'attention sur la décolonisation des espaces publics. Il y a eu beaucoup de statues qui ont été déboulonnées, donc en Martinique, mais aussi à Bristol. Edward Colston, qui était un marchand d'esclaves, qui a déplacé beaucoup d'esclaves, plus de 100 000, je crois, entre l'Afrique et les colonies britanniques. Il y a eu aux États-Unis, à San Francisco, des missionnaires franciscains qui ont été déboulonnés aussi, d'autres figures de la colonisation des peuples indigènes américains aux États-Unis. Et donc ça continue, c'est un mouvement qui apparemment est quelque chose qui se relance. Donc nous, on a l'impression que ça a été vraiment une nouveauté, mais d'après ce que tu nous dis, c'est quelque chose qui en France, puisque la Martinique c'est la France, a une place depuis un certain temps. Et comment toi, tu... Alors, je sais que tu as beaucoup travaillé aussi sur Charlottesville. Donc, tu disais, la Charlottesville, c'était en 2017, une manifestation de personnes suprémacistes blanches qui ont, l'un d'eux, a foncé dans un groupe de protestants antiracistes et a tué des personnes et blessé d'autres personnes.
Et tué une femme.
Tué une femme, ouais. Et blessé d'autres personnes. Et ensuite, après ça, en 2017, après Charlottesville, il y a eu... une renaissance de ces protestations, des statues, des monuments, des confédérés dans l'espace public. Je crois qu'il y a plus de 1500 monuments en hommage aux confédérés et à leur opposition à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc tout ça, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps. Et quel regard, toi, tu portes sur ce qui se passe, le débat national qu'il y a eu depuis ?
Ben, c'est super intéressant. Alors, le texte sur leur ville cannibale, je l'avais fait dans un contexte, c'était pour une conférence à Paris, au Palais de la Porte Dorée.
Donc le palais de la Porte Dorée, c'est l'endroit où se trouve le musée de l'immigration.
C'est ça, c'est l'endroit où se trouve le musée de l'immigration. Et c'était l'ancien palais des colonies. Où il y a eu l'exposition en 1935, l'exposition coloniale, etc., etc. C'est un palais qui célèbre finalement l'Empire français dans sa beauté et à quel point toutes ces colonies enrichissent la France. C'est gravé sur les murs. Il y a une énorme fresque sur toute la partie est de ce musée, qui est tout le long, donc qui est gigantesque en fait, avec tout le nom des amiraux, des marchands qui ont agrandi et enrichi l'Empire français. Je crois que c'est inscrit quasiment littéralement ce que je viens de dire sur ce musée. Et ce que je voulais dire par le biais de ce qui s'est passé en Martinique, finalement, de cette espèce de retravail, de reconquête, de cannibalisation, c'est que clairement, ce qui se passe dans les marges de la France, enfin, dans ces ex-colonies, est quelque chose qui peut être intéressant. Parce qu'il s'agit finalement de repenser notre passé, de casser un peu ce mythe, ces mythes républicains ou ces mythes de l'Empire, et que forcément, comme ces mythes sont traduits dans l'espace, ben, si on casse les discours, si on casse ces représentations-là, ben, forcément, à un moment donné, il faudra casser aussi leur traduction physique.
Alors, la France a un rapport assez ambigu avec ses icônes, et on a pu entendre dernièrement notre président se prononcer sur une figure pourtant dont je pensais qu'elle était unanimement réprouvée.
Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième.
Alors, c'est assez perturbant parce que le maréchal Pétain, effectivement, est un héros de la Première Guerre mondiale, héros de Verdun. Mais on sait qu'il a institué la collaboration avec le régime nazi et participé à la déportation de nombre de nos concitoyens vers la mort. Donc, avec les forces de la police française, il s'est vu attribuer les pleins pouvoirs, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette façon d'apprécier une personne, en fait, en disant que d'un côté, il a fait des choses positives, mais de l'autre côté, les choses négatives ne le sont pas suffisamment, même quand il s'agit de la participation à un génocide, pour empêcher que la personne soit célébrée?
C'est assez complexe. Alors, quand j'avais commencé cette série, j'avais commencé par des études de... Quand j'ai un peu commencé ce travail sur la mémoire et comment on apprécie finalement ces figures historiques et comment on peut finalement se dire, OK, par exemple, ça vaut la peine de garder ou peut-être que c'est intéressant de garder politiquement parce que ça fait sens quand même pour notre communauté ou pas. J'avais commencé par exemple avec les figures de Lincoln, donc d'Abraham Lincoln aux États-Unis et du général Lee, qui était le général des forces confédérées aux États-Unis.
Pendant la guerre de sécession.
Pendant la guerre de sécession, pardon. Ce qui était intéressant avec Lincoln, en fait, c'est qu'il avait grandi finalement dans ce rôle d'abolitionniste, même s'il avait eu ses convictions là très tôt, mais politiquement il avait pris beaucoup de temps finalement pour traduire ça en acte politique, mais il l'a fait, et donc ça finalement transcendait le bien, enfin, ou comment à un moment T il décide de faire ce qui est juste, alors que politiquement et même économiquement ça ne fait aucun sens pour lui de le faire, parce qu'il peut diviser et exploser son pays, le pays dont il est président, il le fait, et ça c'est très intéressant. Dans le cas de Pétain,
c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Il a commencé pas mal. Ça s'est fini de manière très tragique. Quoi. Son nom ne peut être aujourd'hui associé qu'à quelque chose de funeste.
Le péténisme aux Antilles s'est traduit par un régime d'apartheid en Martinique et en Guadeloupe.
D'accord.
À ce niveau-là, je vois pas comment on peut sauver Pétain. Quoi.
Et je trouve que cette question, elle est vraiment importante dans la transformation de nos espaces publics et aussi l'écriture de notre récit national, parce que qui décide de qui on déboulonne ou pas, qui décide de qui est un grand homme ou pas, ou une grande femme, est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est une partie du peuple? C'est toujours ça, c'est ces questions-là qui a le pouvoir de décider ça. Et donc, je cite un des textes que tu as écrit sur les confédérés, mais ça s'applique vraiment à ce qu'on dit aujourd'hui, c'est « Nous avons tous ces images de statues de Lénine, de Staline ou Saddam Hussein se faisant déboulonner dans la chaleur d'une révolution ou d'une chute de régime. » Donc ça, quand il y a un consensus sur une personne, sur ses faits, pour le peuple, tout va bien. C'est quand il n'y a pas de consensus, finalement, quand c'est une partie de la population qui est discriminée et pas une autre, et que c'est la partie de la population qui n'a pas le pouvoir de décider qui on va mettre comme statut, c'est là que la question de repenser la ville se pose réellement. À qui appartient cette ville? Appartient-elle aux hommes, aux femmes? Appartient-elle aux gens du passé? Et je voudrais aussi parler de cette question qui revient souvent quand on parle de ces débats-là, c'est de se dire il ne faut pas regarder l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. C'est comme, enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent comme résistance au changement, résistance au progrès. En fait, ça s'appelle du conservatisme. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment de se dire ah ben, on va rien changer, comme si on vivait dans un musée et que le musée était fait seulement pour les conservateurs hein, et pas pour le peuple auquel il est principalement destiné. Donc il y a vraiment là une vraie lutte d'idées, de paradigmes, et même que ce soit la ville ou que ce soit les idées. Quoi, c'est pour Rose.
Et puis moi, ce qui me dérange quand on me dit on ne peut pas regarder l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui, c'est que de quels yeux on parle en fait. De quels yeux on parle. C'est-à-dire que du point de vue des personnes qui sont dominées, ce qui s'est passé a toujours été tragique. Et quand on me dit à l'époque l'esclavage ou la colonisation était acceptable, je ne pense pas qu'aucun esclave est considéré que ce soit acceptable. Donc, encore une fois, ça veut dire de quel point de vue on adopte un regard rétrospectif sur l'histoire. Parce que si on se place du point de vue des dominés, bah, tout ce qu'on dit aujourd'hui est totalement pertinent.
Et je voudrais aussi donc, rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai lu dans tes écrits, Zaka, que tu préférais le terme esclavisé, plutôt que esclave, parce que du coup, ça redonne une part d'humanité. Et donc, même dans nos mots, c'est hyper important de restaurer cette dignité perdue à un moment de l'histoire, avec les mots qu'on utilise aujourd'hui. Donc forcément, on regarde l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. On fait que ça, sinon on vit dans le passé.
Bah le travail de l'histoire, c'est le travail de réécrire l'histoire. Enfin, c'est de la réanalyser, de la repenser, de changer les paradigmes. On découvre de nouvelles choses, on découvre de nouveaux rapports, on découvre de nouvelles manières. Parce que par exemple, souvent l'histoire, la manière dont on la voyait, c'est les grands hommes qui ont accompli de grandes choses, qui sont souvent des hommes d'État, des princes, des rois, etc., etc. Et puis on commence à faire de l'histoire populaire, on commence à faire de l'histoire des femmes, on commence à faire de l'histoire des mœurs. Donc on commence à faire de l'histoire culturelle, des idées. Et ça permet en fait finalement de repenser finalement comment cette histoire un peu simpliste, nationaliste nous était présentée, et qui est souvent mythique, hein, de Vergès et Torix à De Gaulle, tout ça c'est des constructions. Et donc si on décide de les repenser, il est tout à fait légitime de repenser le reste, comment ça s'est traduit dans l'espace. Ce qui est intéressant, je pense, avec qui choisit, c'est très compliqué. Parce que si ça vient seulement des politiques, ben le peuple ou ceux qui sont dominés vont se sentir un peu écartés finalement de cette décision. En même temps, tu te dis, si c'est le peuple un peu tu vois, dans la chaleur d'une révolution qui décide, eh ben, on enlève tout et puis on remet d'autres choses. Parce que par exemple, il y a un autre cas, c'était Kwame Nkrumah au Ghana. Il avait une énorme statue ben, quand il a fait l'indépendance.
C'était le premier président du Ghana. Ouais.
C'est ça, le président et celui qui a apporté l'indépendance au Ghana. Mmh. Et Kwame Nkrumah a aussi eu une statue détruite au Ghana, qu'on a remis dernièrement.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est très complexe. Je pense que ce qui est intéressant avec ce qu'avait fait Césaire, c'est qu'il a proposé une vision. Il n'a pas juste dit on va changer une petite rue, on va changer un petit truc. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que ma ville soit un espace d'expression des luttes d'émancipation, des humanistes mondiaux, et que ce soit un endroit international, et caribéen, et américain, et qu'on prenne un peu tous nos héritages et qu'on mette ça finalement, qu'on inscrive ça dans la ville. Et je pense que c'est cette force de proposition qui fait que, ben ouais, en fait, tu peux tout refaire, quoi. Et ce qui est très intéressant peut-être de voir pour Paris ou pour d'autres villes en France, ben c'est qu'il y ait aussi cette force de proposition. C'est-à-dire que soit un politique courageux propose quelque chose, soit finalement que des gens proposent des visions en fait. Mais qu'est-ce qu'est Paris maintenant ? Quelles sont les composantes de Paris ? On n'est clairement pas dans la même ville qu'au XVIIe siècle. Ben écoutez, ben quelle vision finalement pour cette ville capitale, cette ville mondiale, cette ville multiculturelle, etc., etc.
Eh bien, pour finir en musique, merci beaucoup de ce que tu viens de nous dire. Je voudrais proposer un petit son.
Oui, alors est-ce que tu pourrais nous traduire, donc on comprend qu'il s'agit de Joséphine, imagine de Beauharnais, est-ce que tu pourrais nous traduire ce texte s'il te plaît ?
Alors c'est une chanson de carnaval, donc c'est juste après qu'Aimé Césaire ait déplacé justement ses statues du centre de la place centrale de Fort-de-France, et donc le chanteur qui s'appelle Guy Métalli dit on a déplacé Joséphine, on a déplacé le monument aux morts pour la Première Guerre mondiale, et tout ce qui reste à déplacer c'est le cul de ta mère.
Sur ces belles paroles de sagesse.
C'est ça. De sagesse, de cohésion, de vivre ensemble. Merci beaucoup, Zaka Toto,
merci
d'être
beaucoup.
Venu de la Martinique pour finir en beauté de cette manière-là. C'est
On arrive à la fin de cet épisode de Kiftara sur les espaces publics et leur décolonisation. On remercie Joyce Kouomukuri de nous avoir invités à parler décolonisation au Palais de Tokyo dans le cadre de cette exposition capsule « Jusqu'ici, tout va bien » en hommage aux 25 ans de la haine de Mathieu Kassovitz. Merci à Zaka Toto d'avoir accepté de nous livrer son expertise. Vous pouvez retrouver son travail dans la revue Zist, que vous pouvez commander sur zist.co, et tes ouvrages aussi.
Et on peut aussi le suivre sur Twitter où il est assez actif. Kiftara, c'est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftara. Salut Grace.
Salut Rokaya.
Salut Zaka.
Salut les filles.